Parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Il n'y a pas que le 8 mars. On repart pour une nouvelle saison avec encore de nombreuses pistes à explorer. Avec moi en studio aujourd'hui, Michel, bonjour.
Bonjour.
Et Natacha.
Bonjour Elodie.
Et on salue Joël qui n'a pas pu être présente pour cet enregistrement, mais grâce à la magie du numérique, vous l'entendrez dans cette émission. D'ailleurs, bonjour Joël.
Bonjour. En nous quittant avant l'été, nous nous étions donné rendez-vous en septembre avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Changement de programme. En cette rentrée 2025, c'est un coup de projecteur que nous avons décidé de porter sur les femmes palestiniennes. Pas facile de faire cette émission. Pourquoi parler des femmes palestiniennes plus que d'autres ? Les femmes en temps de guerre vivent toutes les mêmes choses et la guerre est présente en Afrique, en Europe, en Asie. Quand ce n'est pas la guerre, c'est l'existence même des femmes, c'est le droit des femmes qui sont remis en cause. Mais c'est notre choix de rentrer. Tous les samedis, depuis le mois d'octobre 2023, des gens se rassemblent et donnent des infos qui viennent directement de Gaza ou de Cisjordanie. Le 5 septembre dernier, un groupe de militants a passé la nuit à discuter, à s'informer sur ce qui se passe en ce moment, sur cette bande de terre qui fait 6 à 12 kilomètres sur une quarantaine, une superficie de 360 km². Le département de l'Ain, lui, fait 5 762 km². En 2022, la population gazaoui est estimée à un peu plus de 2 millions d'habitants, soit environ 6 000 habitants par km². Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B.
Et oui, qu'en est-il aujourd'hui ? Ben, il y a de la documentation hein, pour qui a envie de savoir, n'est-ce pas Michel ?
Oui, j'ai trouvé d'abord le rapport de Rehem Al-Salem sur le net, mais j'ai aussi lu les différents rapports de l'ONU, des articles de Mediapart et des rapports de différentes associations comme CARE. Une bonne base pour un bon coup de gueule. Rehem Al-Salem est une experte des droits humains indépendante nommée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a beaucoup travaillé à Gaza sur la situation des femmes et des enfants. Son rapport sur la violence contre les femmes et les filles à Gaza est consultable dans l'Index universel des droits de l'homme. Selon elle, l'ampleur et la nature des crimes infligés aux femmes et aux filles palestiniennes par les forces israéliennes démontre une volonté intentionnelle de destruction de leur vie et de leur corps, car elles sont palestiniennes et que ce sont des femmes. En les détruisant, Israël veut détruire la continuité et l'avenir du peuple palestinien. Elle appelle cela un fémigénocide.
Et selon les estimations, les femmes et les filles représentent 67% des 57 680 Palestiniens tués en date du 9 juillet, soit environ 28 000 femmes et filles tuées depuis octobre 2023. En gros, c'est une fille ou une femme tuée chaque heure. Ça, c'est une source de l'ONU.
Un génocide contre un peuple a plusieurs facettes. Les détruire psychologiquement en fait partie, a déclaré l'experte. Les horreurs que les mères palestiniennes continuent d'endurer en voyant leurs enfants mourir lentement de faim, tués, mutilés et enterrés vivants, les tuent maintes fois en une seule journée. Voici le témoignage d'Amal, qui travaille pour une organisation de la société civile opérant dans le territoire palestinien occupé.
Voulez-vous que vos deux enfants soient enterrés ensemble ou dans des tombes séparées ?
Voilà les questions posées à une mère près d'un hôpital de Gaza après la perte de ses deux enfants lors d'une seule frappe aérienne.
De nombreuses femmes ont été tuées alors qu'elles cherchaient de la nourriture et de l'eau pour leur famille. Elles laissent derrière elles des enfants, des familles, des communautés dévastées. D'autres, restées veuves, enceintes, sans ressources, livrées à l'insécurité alimentaire, sans eau ni électricité, sont les premières à subir les répercussions des affrontements.
Et pourtant, dès octobre 2023, l'ONU a alerté.
À Gaza, la situation des femmes était déjà désastreuse avant le début du conflit. les lois palestiniennes les placent les femmes sous la tutelle et la protection d'une autorité masculine. Ces lois les ont rendues dépendantes et vulnérables. Sans autonomie financière, elles sont plus exposées aux violences sexistes et à l'insécurité alimentaire. Elles ont aussi plus de risques de se retrouver dans des logements ou des abris temporaires insalubres. Rehem Al-Salem a souligné le recours à la violence reproductive. La destruction des infrastructures sanitaires de Gaza a laissé 150 000 femmes enceintes et allaitantes sans accès aux soins essentiels.
Et un autre témoignage, enceinte de 6 mois quand la guerre a éclaté, Shorouk a fui le nord de Gaza pour se rendre à Khan Younes quelques semaines avant la date prévue de l'accouchement. Son médecin lui a annoncé que son état nécessitait une césarienne. Avec la pénurie d'anesthésie, il y en avait juste assez pour une péridurale, mais pas d'analgésique pour la suite. Je n'oublierai jamais la douleur, a affirmé Shorouk.
Et signalons au passage un documentaire diffusé sur Arte qui a pour titre « Gaza, survivre enceinte ». Le reportage réalisé par Ahmed Deheb, journaliste palestinien réfugié en Tunisie, donne notamment la parole à deux mères palestiniennes à Gaza. Etaf, que l'on voit alors qu'elle est encore enceinte et qui doit subir une césarienne, et Ola, dont le bébé prématuré a été évacué en Égypte. Diffusé en mars 2024, ce reportage d'une dizaine de minutes montre combien, effectivement, la situation des femmes enceintes à Gaza est catastrophique. Système de santé détruit, équipe médicale épuisée, suivi médical quasi impossible, risque d'infection, manque de matériel, auquel il faut encore ajouter manque de médicaments, manque d'hygiène, manque d'eau, malnutrition, stress psychologique des futures mamans. Les fausses couches ont d'ailleurs explosé de plus de 300% depuis le début de la guerre. Dans ce contexte, Etaf, dont la maison a été détruite et qui vit dans un campement à Gaza, raconte sa peur de l'après-accouchement. Elle nous explique. J'ai repoussé 3 fois ma césarienne. J'ai un nouveau rendez-vous dans quelques jours, mais je vais peut-être encore le repousser, car je n'ai pas de famille ici. Qui va s'occuper de moi? J'ai aussi une hernie discale qui me fait souffrir dans les jambes. Après l'accouchement, je n'aurai pas de lit, pas de maison, juste un matelas sous une tente et je ne pourrai pas me lever. Et je n'arrête pas de me demander si on aura de la nourriture, des médicaments. Je n'ai même pas d'habits pour mon bébé. Comment prendre soin de lui? Trouver du lait maternel, des biberons, des couches, alors qu'il n'y a plus rien ici. Ola, quant à elle, a pu accoucher dans un hôpital de la ville de Gaza. Elle raconte le chaos de sa grossesse et de son accouchement. Le dernier mois, son bébé a commencé à perdre du poids. Il est né grand prématuré à 1,5 kg à cause de la malnutrition. Et juste après l'accouchement, son bébé est transféré dans un autre hôpital qui disposait, lui, encore de couveuses, puis est finalement évacué en Égypte. Ola explique n'avoir jamais vu son bébé, car après l'accouchement, elle se trouve en soins intensifs et une frappe aérienne frappe alors l'hôpital dans lequel elle est. Et la situation devient encore plus chaotique qu'elle ne l'était déjà. Survivre enceinte à Gaza, c'est le titre du documentaire. Survivre enceinte à Gaza, c'est un véritable combat, conclut le reportage. On est en mars 2024, il y a donc plus d'un an. On peut imaginer que la situation s'est encore aggravée.
On estime que 17 000 des femmes gazaouis et 60 000 enfants de moins de 5 ans souffrent aujourd'hui de malnutrition aiguë. À noter que les enfants sont les victimes les plus nombreuses parmi toutes ces victimes du génocide.
Les autorités israéliennes ont bloqué la fourniture de substituts du lait maternel. Les pénuries de carburant mettent encore plus en danger la vie des nouveau-nés dans les couveuses, alors que des dizaines d'enfants sont nés prématurés.
Oui, un témoignage d'Asma depuis Rafah. Les femmes ici gèrent beaucoup de choses. Elles s'occupent des enfants, de la maison, mais aussi des personnes âgées. Ce sont elles qui font aujourd'hui la queue pour avoir de l'eau ou une bouteille de gaz. À Gaza, les femmes sont les dernières à manger et les enfants les premiers à mourir. Et un autre témoignage, celui de Nora. Je vis dans une tente à Nousserat avec mes 3 premiers enfants. Comment est-ce que je vais pouvoir allaiter? Où est-ce que je vais trouver des couches? On vit au jour le jour. Parfois, on nous apporte des boîtes de conserve. Mes enfants ont déjà beaucoup maigri. On ne trouve pas toujours de l'eau potable, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que l'on vit maintenant.
À Gaza, le désespoir, la surpopulation et le manque de services d'assistance et de protection ont entraîné une recrudescence des violences sexuelles, des violences au sein du couple, de la famille ou de la communauté. Les témoignages affluent.
La contraception est devenue quasiment inaccessible, tout comme les protections hygiéniques. Les femmes utilisent des vieux vêtements pendant leurs règles, nous raconte Sama. Une humiliation de plus, nous dit-elle, mais aussi un risque d'infection. Bien qu'elles se sentent prises pour cible et épuisées, les femmes palestiniennes du territoire palestinien occupé trouvent des moyens de s'entraider et de soutenir leur communauté. Elles sont également présentes dans les rangs des combattants.
Un extrait de l'album Lullabies from the Axis of Evil, berceuse des pays de l'axe du mal, des berceuses traditionnelles interprétées par des chanteuses provenant des pays qualifiés d'axe du mal par George W. Bush en 2002. La Palestine en faisait partie, l'album est sorti en 2004.
En cette année d'élection présidentielle, dit le Washington Post, la plus provocante déclaration musicale est peut-être simplement un CD de bouleversantes et belles chansons pour les bébés. Ce titre était interprété par Jawahar Chofani.
Alors peut-être que la première partie de l'émission vous a interpellé, vous ne saviez peut-être pas l'ampleur de ce qui se passe à Gaza. Pourtant, ça fait des années qu'on en parle de ce sujet, la Palestine.
On ne peut pas dire « je ne savais pas ». Quand on veut s'informer, on peut. Voici près de 2 ans que des sites relayent des informations qui viennent de Gaza et de la Cisjordanie. L'UJFP, l'Union juive pour la paix, association antisioniste, est une de ces sources. Des équipes palestiniennes de l'UJFP interviennent auprès des femmes qui ont dû quitter leur maison, vivre sous tente et se déplacer au gré du vouloir des autorités israéliennes. Tu viens de nous en parler, Michel. Des ateliers de soutien psychologique sont proposés. Dans cette atmosphère tragique, le soutien psychologique n'est plus un luxe, mais une nécessité urgente, dernier fil qui retient l'espoir. Voici un reportage de tout début septembre 2025, juste avant un énième déplacement de la ville de Gaza. Dans les camps, saturés de tentes et des douleurs de leurs habitants, les femmes survivent entre les cris des enfants, l'absence des maris, entre la perte et la privation des conditions minimales d'une vie digne. Avec l'annonce de l'armée israélienne d'envahir Gazaville, la crise s'est aggravée. L'exode n'est plus une simple éventualité, mais une réalité amère qui pousse des milliers de femmes à quitter leur tente et à fuir vers l'inconnu. Leur seul rêve désormais, c'est trouver un endroit sûr où dormir avec leur enfant sans être réveillés par les bombes. Les ateliers de soutien psychologique, c'est un moment, c'est une parenthèse durant laquelle les femmes échappent à l'environnement macabre. Des exercices de relaxation leur font découvrir leur corps, prendre conscience que la vie, que leur vie, est bien là encore. 25 femmes déplacées ont participé à un de ces ateliers, apportant avec elles des histoires de douleur, de nostalgie, de peur. Elles trouvent là un espace pour respirer un peu, de l'espoir perdu. Je n'ai ni toit ni sécurité. Tout ce que j'ai, c'est ce moment où je peux respirer en paix, ne serait-ce qu'une minute, dit l'une. J'ai senti que mon cœur pouvait encore battre malgré tout. Tandis que les bombes tombent comme la pluie, elles emportent avec elles les petits rêves que chacune nourrissait d'une vie normale, d'une vie semblable aux droits humains et les plus élémentaires, où que ce soit dans le monde. Les phrases écrites et lues par ces femmes résonnaient comme des actes de résistance face à la mort, un refus de voir leur humanité écrasée par la guerre, disent les animatrices. Le soutien psychologique demeure une artère de vie, redonnant aux femmes déplacées une part d'espoir et de résilience. Et entre douleur et larmes persiste un espace minuscule où germe l'espérance pour que les femmes de Gaza se relèvent des décombres, portant en elles un message clair « Nous résisterons par la vie, nous résisterons par la paix que nous créons en nous-mêmes », écrit une jeune femme. Les femmes reprennent une aiguille, un crayon, des ciseaux, des pinceaux. L'une des participantes à un atelier de création tenant un morceau de tissu coloré a dit « Quand je tiens ce fil, j'ai l'impression de saisir le fil de l'espoir que je ne laisserai jamais tomber. Créer, c'est transcender. C'est transcender la peur, c'est transcender l'angoisse, la perte, les douleurs. C'est retrouver en soi une flamme, la vie. » Dans des camps tels que celui d'Isra, au centre de Gaza, la vie quotidienne se transforme en une bataille pour la survie et la dureté de la perte se combine avec le fardeau des responsabilités plaçant les femmes face à face avec les images de ruines et les échos d'explosions incessants. Ici, dans une réalité encerclée par l'injustice et la souffrance, l'espoir et la créativité deviennent des artères vitales, une tentative fragile de préserver une humanité broyée sous les poids de la guerre. Malgré la guerre, nous vivons et nous créons. Nous semons l'espoir dans les ruines. Les animatrices confirment que de telles activités ne sauvent pas les vies de la guerre, mais qu'elles sèment des petites graines capables de donner au cœur la force de continuer.
Encore l'art, la musique pour apaiser un peu les cœurs.
Sur la chaîne Gaza la vie, c'est une chaîne d'infos et d'actualités qui est en français, qui est réalisée par des jeunes francophones de Gaza pour informer la population. Et sur cette chaîne-là, une vidéo de 2022, une femme palestinienne qui est âgée, qui raconte et qui chante la Palestine. Cette femme vit en Jordanie, elle chante des chants patriotiques palestiniens et elle raconte des événements historiques de la Palestine. Cette femme âgée raconte en chantant « On ne te dit pas adieu Palestine, venez nous soutenir ici en Palestine ». Du papier chinois, j'écrirai à l'encre sur du papier chinois. Je documenterai ce qui est arrivé aux Palestines et cette femme, après, raconte le mariage traditionnel. Pendant 8 jours, les chants, les danses, les moutons abattus pour l'asta, ce plat qui serait distribué dans la ville. Elle nous explique la recette, la marche vers la maison, sur le cheval. On y est, on y croit.
Hello, my name is Noor Al-Asi. I'm 21 years old from Gaza.
Et une autre voix que vous venez d'entendre, celle d'une jeune femme palestinienne, Noor El-Assi. Je l'ai découverte dans le courant de l'été suite à une publication sur les réseaux sociaux où le génocide est là aussi très documenté. J'y reviendrai. D'abord, parlons de Noor El-Assi. Alors, elle est journaliste et poétesse et elle a fait le buzz, enfin, pour celles et ceux qui suivent l'actualité, autour de Gaza. Alors, elle a réussi à partir de Gaza, mais à quel prix? Et elle raconte... avec un poème publié dans Mediapart et repris à l'international depuis. Son titre, « Quitter Gaza pour la venger ». Ça commence comme ça. J'écris ceci depuis Paris avec sa pluie de juillet qui arrose doucement mes joues. Comme si elle s'excusait pour moi de la douleur que je ressens. Comme si elle pouvait sentir à quel point je suis fragile après avoir quitté tout mon monde pour poursuivre mon rêve. Les jours précédant l'évacuation ont été les plus sanglants que nous ayons jamais vus. Le ciel brûlait plus fort. La terre s'est fissurée plus profondément. Le nombre de bombardements, d'ordres d'évacuation et de massacres a dépassé ce que l'on peut compter. Le consulat français a déclaré qu'il était temps d'évacuer, pas parce que c'était sûr, mais parce qu'Israël avait finalement donné son autorisation. Et nous avons déménagé à Deir al-Bala pour attendre le départ. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé ma famille respirer, mémorisant les voix des miens comme si elles allaient disparaître. Parce qu'elles allaient disparaître. Elle raconte ensuite le périple jusqu'à l'aéroport. Chacun d'entre nous porte des histoires qu'il n'aura jamais fini d'écrire. Nous sommes montés dans les bus comme des fantômes portant des corps, chacun avec des yeux pleurants, bouffis de n'avoir pas dormi, plus tristes et plus confus les uns que les autres. Je me suis assise près de la fenêtre et je me suis forcée à regarder, à assister à la mort de ce qui était ma maison. Khan Younes, Rafa, ou ce qui était Khan Younes, Rafa, tout avait disparu. Aplati dans une architecture de silence, des os en béton, du linge brûlé, même les oiseaux volaient plus bas, comme s'ils étaient en deuil. Elle rencontre une autre jeune fille qui part elle aussi, voici ce qu'elle lui dit.
J'ai l'impression d'avoir laissé mon âme sous les décombres, et maintenant j'ai peur que quelqu'un marche dessus.
Voici la conclusion du texte de Nour El Assi. Me voilà à Paris désormais, en sécurité, je dors dans un lit chaud très confortable. Et chaque nuit, je fixe le plafond et me demande, les ai-je trahis ? Ai-je abandonné ma mère, ma sœur, mon peuple ? La culpabilité me brûle l'estomac et m'empêche de garder quoi que ce soit à l'intérieur, que ce soit de la nourriture ou des larmes. Partir était-il un acte de courage ou de désertion ? Mais je sais ceci, je n'ai pas quitté Gaza pour l'oublier. Je l'ai quitté pour la venger avec la langue, avec la politique, avec une mémoire plus vive que les balles. Je suis partie pour apprendre la langue des tribunaux qui ne nous ont jamais sauvés, pour utiliser leurs propres outils afin de graver notre nom dans l'histoire. Vous, dans vos ambassades, vos salles de rédaction et vos studios de télévision, vous entendrez parler de moi. Je ne serai pas votre histoire à succès, je serai votre miroir. Et vous n'aimerez pas ce que vous y verrez. J'ai quitté Gaza sans rien, pas de sac, pas de livre, pas de cadeau d'adieu, seulement de la rage. Nour El Assi, que vous pouvez retrouver sur Instagram, nour.elassi, E-L-A-2-S-Y. Attention, elle explique que de nombreux fonds comptent à son nom fleurissent et font des demandes de dons, alors soyez vigilants.
Et toujours sur Instagram, une autre femme, une très jeune femme qui s'est imposée.
Et oui, c'est Reynad Atala, 11 ans, qui est devenue célèbre en partageant des recettes de cuisine grâce aux colis alimentaires réceptionnés. Dans une publication datant d'août 2025, elle dit
« Mon rêve avant la guerre, c'était d'ouvrir un restaurant et faire en sorte que tout le monde goûte à ma nourriture. Maintenant, le seul rêve, c'est d'avoir assez de pain pour me sentir rassasiée. »
Avec ses 1,5 million d'abonnés, elle est vite devenue l'emblème d'une association humanitaire canadienne, Human Concern International. Reynad a pu être évacuée de Gaza avec sa sœur venue étudier aux Pays-Bas et son frère jumeau. Elle a laissé derrière elle ses 4 autres frères et sa mère. Elle commente.
Nous avons fui en espérant trouver la sécurité, l'école et à manger. Et pourtant, je n'ai pas la sensation d'avoir survécu. Survivre seule, ça n'a pas de sens. C'est soit chacun d'entre nous, soit personne.
Avec l'ONG dont je vous parlais, elle commercialise des t-shirts, des pulls de soutien à Gaza. Si ça vous intéresse, ça se passe toujours sur Instagram, Reynad from Gaza.
Et puis un professeur de musique qui a marqué l'actualité récemment.
Il s'appelle Ahmed Mouine et il a monté à Gaza Sud le Gaza Bird Singing, une école de musique pour que la culture, la créativité puissent perdurer face à l'atrocité. Cet été encore, il a marqué les esprits avec cette vidéo sur Instagram, hein, toujours. Où vous allez l'entendre, il propose à ses élèves de s'accorder au bourdonnement des drones qui les survolent. Tendez l'oreille.
Hello everyone, how are you? I miss you a lot, really. Today there's a lot of drones. I'm gonna sing a song today with drone. Ah, shil shil ya jamali shil ya hawatak balla dam shayid ma'attar bil hil hil ya lilu wail wail al-zalimi wail wail min Allah لا سر على نجوم الليل أنا نديل شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالغدا الشيد مع الطرب الليل يا ليل ويل ويل عبالي ويل 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 لا سر على نجوم الليل أنا نديل شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالغدا الشيد مع الطرب الليل Shayd
Il organise des groupes d'apprentissage d'instruments et de chant avec des enfants, des adolescents et des adultes. Le compte Instagram, c'est Gaza Bird Singing. Et alors, si je vous parle des réseaux sociaux, c'est pour plusieurs raisons. Bah déjà pour contrer le discours, et ça on le fait depuis le début de l'émission, de ceux qui nous diraient qu'ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Et ensuite parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu à propos de la situation, c'est on assiste au premier génocide documenté en direct et rien de plus direct que les réseaux sociaux. Un article de Lorient 21 en a parlé cet été, il est disponible en accès libre en ligne, je vous invite à aller le consulter. Il explique que la présence des Palestiniens sur les réseaux sociaux ne date pas d'aujourd'hui, elle a démarré il y a quelques années déjà, bien avant le 7 octobre. Cette place sur les réseaux est essentielle puisqu'elle permet d'influencer, de nous apporter autre chose sur ce qui se passe sur place. Face à nous, des jeunes anglophones, éduqués, drôles, pleins de ressources et capables d'intégrer les codes des réseaux sociaux pour faire passer un message éminemment politique et auquel les plus jeunes pourront s'identifier. Et parmi ces jeunes, des femmes et beaucoup de jeunes femmes. On retrouve parmi eux et elles des cuisiniers, des jardiniers, des influenceuses lifestyle ou comment bien vivre. Ils réussissent à jouer avec les codes des réseaux sociaux, nos codes occidentaux à nous, pour nous montrer leur réalité. Si vous avez des ados, ça peut-être être une façon de les intéresser au sujet. Et puis parmi eux, il y a aussi des journalistes. Et je vous parlais tout à l'heure de Nour El Assi, hein, il y a quelques minutes. Mais je vous conseille également de suivre Bissan Aouda. À 27 ans, elle a été classée parmi les 25 femmes les plus influentes de 2024 par le Financial Times. Elle était quand même aux côtés de Taylor Swift ou de Kamala Harris. Et elle a même reçu un Emmy Award pour sa série documentaire « It's Bizan from Gaza and I'm Still Alive », diffusée par la chaîne Al Jazeera. Petite note, en fait, son gimmick sur les réseaux, sur Insta, c'est de dire à chaque début d'article « Hello, it's Bizan, I'm from Gaza and I'm still alive ». Donc, « Salut, c'est Bizan, je suis à Gaza et je suis toujours en vie ». Voilà, donc merci à elle et à eux pour leur présence en ligne et une seule pensée, qu'ils puissent continuer de nous informer.
Tu parles de réseaux sociaux, voici des sites qui donnent des informations, des analyses, où sont présentes des femmes journalistes dans les rédactions. Un premier site, Filastinia, c'est une organisation palestinienne qui est basée à Ramallah. Elle défend des médias proactifs, non gouvernementaux et sans but lucratif. C'est une organisation qui est engagée à assurer, à soutenir la participation équitable des femmes palestiniennes et des jeunes à tous les niveaux de la sphère publique et tous les forums de débat public. Voilà, c'est donc à Ramallah, en Palestine. Un autre site, Plus 972. Ça, c'est un magazine d'information indépendant qui a été créé en août 2010 par un groupe de journalistes qui est établi en Israël et en Palestine. C'est un quotidien numérique. Il publie ses reportages sur deux sites distincts, un en hébreu et un autre en anglais. Le nom du magazine est dérivé du code international 972 qui est partagé par Israël et par les territoires palestiniens au niveau du téléphone. Il est décrit par le monde comme une référence mondiale sur le conflit israélo-palestinien. Alors un autre, Orient 21, c'est un site où des chercheurs et des journalistes spécialistes du Moyen-Orient écrivent, font des analyses. Tous ces sites donnent une grande part à la parole des femmes. Autre chose, là, c'est pas une femme qui écrit, mais c'est un journaliste. Abou Amir, c'est un journaliste palestinien et sur le site de l'UJFP où il envoie des chroniques très très régulières, ces derniers jours, il fait un très bel hommage aux femmes palestiniennes, à leur lutte, à leur implication dans la vie civile. Et je vous cite simplement la fin du texte. Ça se termine comme ça. Aux femmes de Gaza, nous disons merci d'être une école de l'humanité. Vos leçons de force continueront d'inspirer le monde entier. Merci d'avoir prouvé que la dignité peut survivre sous les décombres et que l'espérance peut naître des pires ténèbres. Merci d'avoir fait de vos voix un miroir de vérité et de vos cris un appel universel à la liberté et à la justice. Vous n'êtes pas seulement les femmes de Gaza, vous êtes les visages de Palestine, l'incarnation de sa fierté et une page lumineuse dans l'histoire des peuples en lutte pour la vie et la dignité. Le restant du texte est beaucoup plus documenté sur ce qui se passe. Vraiment, ça vaut le coup d'aller le retrouver sur le site de l'UJFP.
Rim Banna, qu'on vient d'entendre, est une chanteuse, compositrice et arrangeuse palestinienne. Elle a toujours eu la volonté d'exprimer l'identité du peuple palestinien à travers sa musique traditionnelle.
Alors Joël évoquait avant la pause musicale des médias à consulter. Natacha, tu as travaillé sur des parcours de femmes journalistes palestiniennes.
Alors c'est surtout Mediapart qui a travaillé dans un dossier publié sur le journal en ligne Mediapart, intitulé « Journaliste à Gaza, les images du carnage » et qui est mis à jour régulièrement. La dernière mise à jour date du 26 août dernier. Le journal donne à voir l'ampleur du massacre des professionnels de l'information par l'armée israélienne depuis le début du conflit. Mediapart tente alors de reconstituer leurs histoires pour, je cite, « qu'on se souvienne d'eux, pas seulement par leur nombre, mais aussi par leur nom, leur visage, leur destin. » Et parmi les 200 journalistes tués recensés depuis le début de la guerre, 209. Donc parmi les 209, il y a 24 femmes. Quelques exemples de portraits.
Alors la 206e journaliste tuée, Marianne Abou Daga, le 25 août 2025, l'armée israélienne a attaqué l'hôpital Nasser, situé à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Au total, deux explosions. Ces bombardements ont tué au moins 20 personnes, donc 5 journalistes et un secouriste, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Parmi les journalistes, Marianne était photojournaliste indépendante. Elle a été tuée alors qu'elle couvrait avec d'autres journalistes les conséquences de la première explosion. Marianne avait 33 ans et laisse derrière elle son fils de 12 ans, Guess, qui avait été évacué au début de la guerre.
La 180e journaliste tuée, Fatma Hassona, Mediapart écrit « Peut-être que mes photos auront une vie plus longue que la mienne et c'est ce qui me réconforte. » Ça, c'est les mots de Fatma Hassona sur son compte Instagram, on y revient. La veille de sa mort, elle en a acquis la certitude hein, puisqu'elle est la protagoniste du film de la réalisatrice franco-iranienne Sepideh Farsi qui lui apprenait alors au téléphone que le documentaire réalisée avait été sélectionnée au Festival de Cannes. Elle a été tuée le 16 avril 2025 avec 10 de ses proches par un bombardement israélien survenu à l'aube et visant sa maison familiale. Interrogée au sujet de la mort de Fatma Hassona, l'armée israélienne a déclaré avoir ciblé un membre du Hamas impliqué dans des attaques contre des soldats et des civils israéliens et a affirmé avoir pris des précautions pour éviter des victimes civiles. Le mariage de Fatma Hassona devait se tenir une semaine après sa mort.
La 158e victime journaliste, c'est Iman Al-Shanti. Vous considérez le sang des Gazaouis comme du sang bon marché. Avez-vous si peur de faire ne serait-ce qu'un petit sacrifice? Vous êtes si peu attaché à nos vies que vous n'êtes même pas en mesure d'organiser une grande marche, s'adressait Iman Al-Shanti au reste du monde dans sa dernière vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Iman avait pourtant mis toute son énergie depuis le début de la guerre à éveiller les consciences endormies sur la situation désastreuse des habitants et habitantes du nord de la bande de Gaza, en proie à un nettoyage ethnique. Iman vivait dans le nord et a eu l'opportunité de déménager dans le sud, mais elle a préféré rester pour continuer à informer sur ce qui se passait dans le nord, et cela lui a coûté la vie, a déploré son confrère et ami de longue date Sami Bahroum. Iman a été tué avec le reste de sa famille le 11 décembre 2024 par un bombardement israélien sur le quartier résidentiel de Cheikh Radwan, dans le nord de la bande de Gaza. La journaliste de 36 ans travaillait pour plusieurs médias, dont la radio Al-Aqsa et pour le site d'information AJ+, géré par Al Jazeera. Elle s'était faite connaître en animant l'émission L'Origine de l'Histoire, qui racontait les souffrances du peuple palestinien. Quel danger Iman représentait-elle pour Israël pour que l'appartement dans lequel elle vivait soit rasé et qu'elle, son mari et trois de leurs enfants perdent la vie, s'indigne, fou de rage, son ami Sami Bahroum.
On aurait encore tellement de choses à vous raconter, à vous transmettre sur ce sujet. Et on vous quitte avec quelques recommandations.
Alors oui, un autre documentaire, celui de Solène Chalvon-Fioriti, qui est journaliste, grand reporter, et qui, dans son documentaire « Fragments de guerre », diffusé en mars 2025 sur France 5, donne à entendre la parole de femmes et de filles palestiniennes dans la guerre. Alors, elle le fait grâce à des personnes sur place qui enregistrent, puisque, évidemment, elle n'a pas pu se rendre sur place. Le film s'ouvre sur la petite Nissan, 8 ans, qui vit à Gaza, dans un campement, et pour qui sa maman va inventer une réalité alternative pour atténuer la violence du présent. Ici, la petite fait du camping. Elle est invitée à jouer avec les insectes dans la tente et les enfants sont couchés en journée car on entend moins les bombes en journée que la nuit. L'ambition de Solène Chalvon-Fioriti est de filmer la vie. Pas la survie ou la mort, explique-t-elle, mais la vie qui peut aussi être lumineuse, y compris dans le chaos. Il s'agit aussi dans son documentaire de dresser des portraits de femmes actives, de femmes parfois même actrices du conflit, car, dit la réalisatrice, les sujets sur la Palestine ont tendance à nous montrer uniquement des femmes victimes, figées dans des rôles de piéta avec des enfants dans les bras ou dans des figures de mères pour la paix. Et la réalisatrice, elle veut s'insurger aussi que l'on fasse à part le bilan des femmes et des enfants morts ou blessés, comme si les femmes n'étaient pas des adultes, comme si elles ne pouvaient pas être engagées dans les combats, politisées, et comme si par ailleurs les hommes n'étaient pas des civils aussi. Et en parallèle, elle a réalisé aussi un reportage intitulé « Femmes du 7 octobre ». Alors il ne s'agit pas ni de comparer les souffrances, les situations, mais il donne aussi, il est très intéressant, la parole aux femmes israéliennes dans le conflit. Les deux documentaires ne sont malheureusement pas disponibles en France actuellement, on ne sait pas trop pourquoi. En revanche, ils sont visibles sur le site de la RTBF et de RTS, donc les radios-télévisions belges et suisses, pour nos amis auditeurs belges et suisses. Il y en a peut-être. Et on peut encore écouter, en revanche, des interviews de Solène, la réalisatrice, sur France Culture, dans l'émission Un jour dans le monde.
Et du côté des salles obscures, il faudra être attentif à la sortie de plusieurs films. Put Your Soul on Your Hand and Walk, de la réalisatrice Sepi Defarsi. Il met en lumière la journaliste Fatma Hassona, tuée par Israël depuis, on en a parlé tout à l'heure. Et la sortie s'est prévue le 24 septembre, donc très prochainement. Le long métrage The Voice of Ind Rajab, de la réalisatrice tunisienne Kaouter Ben Ania, il vient d'être présenté à la Mostra de Venise il y a quelques jours. Il a reçu la plus longue standing ovation depuis la naissance du festival. Alors Ind Rajab, c'est la fillette âgée de 6 ans tuée par l'armée israélienne le 29 janvier 2024 à Gaza, alors qu'elle était à bord d'une voiture avec plusieurs membres de sa famille et tentait de fuir les bombardements. Son histoire avait fait le tour du monde, hein, car des enregistrements audio déchirants de la fillette appelant les secours avaient été diffusés. Le long métrage se place du point de vue des opérateurs du Croissant Rouge palestinien qui étaient au téléphone avec la petite fille durant son agonie. La date de sortie est encore inconnue. Et puis un film sorti en 2024, lui, a surveillé pour sa diffusion, parce que je pense qu'il va continuer à être diffusé un petit peu partout. C'est le film No Other Land, Oscar du meilleur documentaire. À noter que cet été, l'un de ses protagonistes, Aouda Attaline, a brutalement été abattu par un colon israélien en Cisjordanie.
Oui, on s'est concentré sur Gaza dans cette émission, mais nous n'oublions pas ce qui se passe ailleurs, en Palestine, en Cisjordanie. Comme évoqué aujourd'hui, tout est documenté et accessible à vous tous et toutes.
Eh bien, merci à vous pour votre écoute. Merci Michel et Natacha pour cette émission. Et merci à Joël, à la technique Jimmy. Merci. Et on se quitte en musique avec un titre dont le titre nous parle. From Gaza with Love de Saint Levant.
Wallahi, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian, to always rep where you come from. Except when you're in line at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse to go back. From Gaza with love. غزة بالله بيبي فلسطين عسنساني وبنت بلادي عشباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas 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 somebody tell Bella Hadid let's change that to Abd al-Hamid. I don't mean to come off too strong, but still أصل فلاحي, I'm planting the seeds. Yeah, I can get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I ever went back. From Gaza with love, if you had it that way, you would never go back. From Gaza with love, baby, فلسطين عسنساني وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Continue à parler, on vous entend.